Bonjour tout le monde, pour ce quatrième épisode, je recevrai David Fugère-Lamar, PDG d'Illogica. Bonjour, je m'appelle Joëlle Vincent et j'anime le podcast « Employés engagés, organisations performantes ». Ce podcast s'adresse aux dirigeants de PME qui sont conscients d'avoir des enjeux humains et qui souhaitent y travailler. Les thématiques qui sont abordées permettent d'augmenter les performances organisationnelles en proposant des solutions simples, adaptables et concrètes. Mon invité pour cet épisode est David Fugère-Lamar, PDG de Illogica et gagnant du prix Estime 2019 dans la catégorie « Jeune leader ». Il a cofondé en 2009 Illogica, un studio indépendant montréalais qui développe des jeux vidéo et des expériences interactives pour des clients de renommée internationale. Le studio compte maintenant une soixantaine de personnes. On sait à quel point le secteur du jeu vidéo représente un défi en termes de main-d'œuvre depuis plusieurs années. Malgré tout, Illogica a réussi à sortir son épingle du jeu et nous souhaitons connaître sa recette secrète. C'est alors avec grand plaisir que je lui pose des questions pour vous à l'instant. Alors, merci beaucoup, David, d'accepter cette rencontre-là pour pouvoir approfondir sur les bonnes pratiques de Illogica en termes d'attraction, en termes de rétention, en termes de mobilisation des employés. Je sais que vous faites plein de choses pour arriver à conserver vos gens. Alors, j'ai envie de te poser des questions pour savoir c'est quoi ta recette secrète et comment vous y arrivez. Peut-être ma première question, j'aimerais ça savoir, qu'est-ce que tu trouves le plus facile dans tout ça, en fait, en termes de... Est-ce que c'est plus facile pour Illogica d'attirer les talents ou c'est plus facile de les retenir une fois qu'ils sont déjà rendus, sont déjà dans l'organisation?
Bien, je te dirais qu'il n'y a rien qui est facile en tant que tel à la base. C'est vrai, choisir entre les deux, je dirais que c'est peut-être plus facile de retenir les gens que de les attirer parce que, dans le fond, quand quelqu'un travaille ici, ben, la démarche qu'on a est authentique puis on aime vraiment faire en sorte que les gens soient bien dans leur espace de travail, dans leurs tâches, etc. Donc, c'est quelque chose qui vient comme un peu « naturellement », en guillemets. Tandis qu'attirer, ben, on n'a pas eu la chance de pouvoir parler à ces gens-là. Comment, à travers un message finalement de marketing pour attirer des candidats, on peut expliquer ça? C'est pas évident, je dirais. Donc, il y a cette différence-là qui est nette.
Est-ce que tu dirais que ça fait partie des plus grands freins que vous avez en termes d'attraction, cet aspect-là de vous faire connaître? Que ce serait les plus grands défis là, en termes d'attraction dans l'industrie que vous avez en tant que
employé? Oui, se faire connaître, c'est probablement la chose la plus difficile parce que, mettons, si on s'amalgame dans le monde de l'industrie du jeu vidéo au Québec, c'est quand même 10 000, 12 000 emplois là, directs là, qui sont là-dedans. Puis il y a des entreprises qui sont à côté de nous, les Ubisoft, Eidos, Warner, etc., qui ont une renommée mondiale. Donc, pour eux, ils ont des projets vraiment, vraiment très, très, très connus qui sont attirants pour les gens de manière naturelle. Puis les gens veulent bâtir un CV et tout ça. Donc, pourquoi aller vers un petit studio, une soixantaine de personnes qui va parfois agir en support à ces grosses productions-là? Donc, des fois, c'est pas évident pour eux de le saisir. Puis, c'est pas quelque chose qui s'explique si aisément que ça en 3-4 mots, là, ou en espace de 15 secondes dans une publicité Facebook. C'est peut-être le plus gros challenge. Puis, c'est pas naturel pour nous. On est des bons développeurs, mais on s'est rendu compte au fil du temps que la mise en marché, c'était pas tout à fait notre force. Fait qu'on s'associe avec des gens qui nous aident, puis on s'améliore beaucoup là-dedans, mais on est parti de loin, mettons, là-dessus.
Qu'est-ce que vous avez fait peut-être comme initiative en termes d'attraction, justement, que vous dites, bien ça a vraiment porté fruit, ça a beaucoup aidé, puis peut-être celle où vous avez fait des tentatives, puis que ça n'a pas du tout donné de résultats, les do's and don'ts par rapport
à ça? Oui. Je dirais que, dans le fond, les éléments qui ont le mieux marché, c'était plutôt par rapport à certaines publications qui venaient vraiment, vraiment du studio. On les segmente surtout vers des catégories de gens qui seraient des potentiels membres de l'équipe. Donc, quand ça vient de nous, c'est une nouvelle du studio qui parle de notre, notre façon de travailler, l'expansion qu'on prend, les beaux projets sur lesquels on a travaillé. Ça, en général, ça marche bien, beaucoup de retours. On voit des likes, on voit de l'engagement des gens, puis il y a des CV qui rentrent. C'est difficile de voir exactement de les lier, là. Mais quand les gens viennent en entrevue, on arrive à, des fois à déterminer ça. Ce qui marche très bien aussi, c'est quand certains développeurs dans l'équipe, par exemple, publient sur, sur Twitter ou sur, dans des blogs ou sur Reddit ou peu importe, puis ils parlent de projets qu'eux réalisent, puis à la longue, ils se sont bâtis un petit following de leur côté. Puis des fois, on a des gens, des profils assez seniors qui viennent dire « Ah oui, j'ai suivi le Rick, par exemple, je trouve ça super cool ce qu'il fait sur, sur Twitter, j'ai vu qu'il travaille ici à Illogica, puis là, ça m'intéresse, j'ai vu une publicité par ça. » Donc, il y a plusieurs raisons qui font que la personne a fini par appliquer puis à nous contacter, mais ça, d'avoir compris qu'il y a des gens allumés qui font du vrai travail intéressant, innovant, c'est ça que les gens vont rechercher, ils veulent travailler avec des gens qui vont leur apprendre quelque chose, qui vont les pousser plus loin, puis qui vont avoir beaucoup d'enthousiasme, avoir du plaisir au travail, etc. Donc, quand on arrive à communiquer ça, ça marche vraiment, vraiment bien.
C'est comme un peu des ambassadeurs
ouais, exact, c'est
internes,
ça.
Dans
c'est
le fond.
Ça. Mais c'est pas tout le monde qui est à l'aise de faire ça, mettons, se mettre sur Twitch, puis de diffuser sa séance de programmation du dimanche après-midi. C'est cool quand les gens le font naturellement, mais ce serait difficile de demander à quelqu'un qui n'est pas à l'aise de faire ça. Fait qu'on prend quand ça arrive, puis il faut que ce soit authentique, il faut que ça vienne de la personne, sinon ça a l'air forcé. Les gens sont extrêmement, c'est fascinant, extrêmement capables de voir quand c'est une initiative un petit peu forcée, un petit peu moins
c'est
naturelle.
Fake.
Le fake, là, ils ont le pif pour ça, là, puis c'est automatiquement détecté puis classé. Comme étant quelque chose qu'ils ne veulent pas.
Fait que l'authenticité.
Oui, exact, c'est ça. L'authenticité, ça marche bien. Puis, ce qui ne marche pas bien, ben, c'est un peu dans cette veine-là, c'est dans le contraire. C'est quand on essaye, par exemple, de mettre sur Facebook des nouvelles peu liées à l'industrie ou des statistiques intéressantes, mais c'est pas quelque chose qui vient de nous en tant que tel. Puis, il y a peu d'engagement qui vient de ça, c'est pas quelque chose qui fonctionne, qui attire. Puis même des fois j'ai un peu l'impression, c'est dur à mesurer, que même ça peut avoir un impact négatif sur notre positionnement. À tel point les gens sont à la recherche de quelque chose d'authentique, réel, puis lié à leur temps. Si je vois une publication de Facebook, je veux vraiment que ce soit sur Facebook à propos d'Illogica, je veux vraiment que ce soit quelque chose qui est lié, qui m'en apprend plus à propos de cette entreprise-là, mais que ce soit pertinent, puis que comme je puisse me projeter comme membre de l'équipe, puis avoir partagé cet événement-là, cette méthode-là avec les gens. C'est vraiment ça qui est recherché.
Très cool. Par rapport peut-être plus à la rétention, à la mobilisation, une fois que les gens sont déjà arrivés, qu'est-ce qui a été peut-être les choses que vous avez mis en place qui, cette fois-ci, fonctionnent bien? Puis peut-être aussi, si jamais tu as des exemples de qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné ou qu'est-ce qui était moins des bonnes pratiques?
Oui. En termes de rétention, ça va dans la même veine. C'est bâti une image sur l'authenticité. C'est sûr que les gens vont s'attendre à ça à l'interne, puis de se sentir écouté. Des fois, je trouve ça un peu drôle quand je vais à des événements, puis là, ça chiale sur les milléniaux font ci, ils sont ça. Personne ne les comprend. Ouais, moi, je suis un peu sur la limite de cet âge-là, donc peut-être que naturellement, ça m'est venu un peu tout gratuitement, là, je dirais, mais c'est vraiment des tu sais, juste pour la personne de se sentir écoutée. d'avoir un accès à la personne qui gère le projet pour pouvoir parler de « j'ai un problème avec X, Y, Z », accès aux directeurs de studio, accès à moi quand c'est pertinent, etc. Juste ça, de sentir, c'est vraiment quelque chose qui marche bien. Tu sais, au-delà de tous les petits aspects comme une table de ping-pong, tout ça, c'est des choses qui sont bien, ou on a installé une console pour jouer à Super Smash Brothers, c'est super populaire, tout ça, mais c'est pas pour ça que les gens viennent travailler, ils sont capables de faire ça chez eux. Puis on préfère vraiment que les gens aussi mettent le temps sur le travail, mais de temps en temps, prendre une pause, là, c'est bien correct. Fait que des bonnes pratiques, en tout cas, des choses que moi je fais personnellement, c'est le vendredi en fin de journée, on prépare un newsletter avec les événements, les faits saillants de la semaine, tant au niveau de la production, au niveau des, par exemple, des arrivées de nouvelles personnes dans l'équipe, des gens qui partent en vacances, souligner les anniversaires d'embauche des gens. Puis aussi, peut-être quelque chose qui étonne un peu parfois quand j'en parle, c'est pour les opportunités, les leads qu'on a en développement d'affaires, où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qui est intéressant, pourquoi on poursuit telle opportunité et pas telle autre. Donc ça, c'est souvent très apprécié. Donc on l'envoie par écrit, puis en général, c'est moi, mais des fois, c'est des collègues qui le font, mais devant les gens, on prend 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure si besoin est pour en parler. Puis c'est vraiment comme un meeting où les gens sont invités à poser des questions, même non reliées par rapport à ce qui vient d'être annoncé, si on a une crainte, pourquoi on ne fait pas telle affaire, telle autre. Puis on en parle ouvertement. Donc ça, c'est vraiment un élément que les gens apprécient, savoir que c'est pas quelque chose qui se passe en coulisses, font partie de l'entreprise, ils voient où est-ce que ça s'en va, puis donc ça aide. Parce que l'être humain normal se fait des histoires très facilement.
Tellement.
Dans sa tête. Donc, il faut toujours travailler, puis continuer à envoyer le message, puis remplir le vide par quelque chose qui est vrai, qui est ce qu'on fait présentement. L'autre élément que je fais périodiquement, donc j'en fais au moins un par semaine, c'est prendre 30 minutes, surtout avec les gens avec qui je n'interagis pas beaucoup dans l'équipe. Quand on était une dizaine de personnes, c'est facile, on se parlait tous les jours, mais il y a une limite à l'humain. Après une dizaine de conversations par jour, on a pas mal fini notre journée. Donc, prendre au moins 30 minutes, une fois par année, avec les gens, juste pour apprendre à mieux se connaître, juste envoyer le message que, tu sais, c'est pas parce que c'est une personne un peu au bas de l'échelle, entre guillemets, de la compagnie, qui sont pas importants, là. Donc, au contraire, souvent, ils ont un point de vue qui est hautement plus intéressant que le mien par rapport à leur réalité de production. Puis, c'est souvent, ça, les gens rentrent dans le meeting, ils ne savent pas trop pourquoi, tout ça. Fait que là, on essaie de briser la glace. Mais plus souvent qu'autrement, ça finit quelque part vers la fin, entre 20 et 30 minutes du meeting. Dis, ouais, finalement, telle affaire, c'est pas un gros truc, là, ça me dérange pas tellement, mais tant qu'à être ici, je vais en parler. Puis souvent, c'est des éléments simples à régler. C'est un irritant.
Un caillou dans le
sujet. Peut-être pas faire en sorte que la personne serait partie ou quoi que ce soit, mais à la longue, ça use. Puis, donc, si on peut le régler, ben, au moins, on peut le faire ressortir. Donc, ça a aidé beaucoup parce que ce que j'ai appris à la longue, c'est comme disons que chaque personne a un vase de choses irritantes par rapport à un emploi. Quand c'est pas trop rempli, ça peut finir par se vider en corrigeant les problèmes. Mais à un moment donné, il y a un seuil où, peu importe ce que tu vas faire, le vase ne se videra plus. Mm. Il va juste continuer à se remplir. Puis c'est juste une question de temps avant que la personne parte elle-même ou que ça ne marche plus, qu'on doive s'arranger pour qu'elle quitte. Parce que donc, il ne faut vraiment pas atteindre ce seuil-là, puis essayer de créer ces occasions-là pour les aider le plus possible. Là. Donc ça, c'est super important.
Et ça t'en fait pratiquement au moins un par semaine à 60 employés quand tu calcules.
Oui, c'est ça, au moins un par semaine. Puis, tu sais, en même temps, je m'arrange pour aller luncher dans notre salle à manger, puis parler aux gens, tout ça, puis essayer d'entretenir un dialogue qui est plus que du travail, là, un peu bâtir des relations de confiance à travers ça. Et c'est plus simple aussi de s'ouvrir quand on n'a pas l'impression que le patron, c'est le gars dans son bureau, dans le coin, là, qui ne sort jamais, puis qu'on voit juste de temps en temps. Donc, c'est un vrai être humain là, qui est là, je pense que ça aide beaucoup les gens. Puis, tu sais, j'essaie de, tu sais, sans m'auto-dénigrer, là, mais quand même de montrer mes propres vulnérabilités. Dire des choses que, mettons, moi je ne suis pas un expert, mettons, en game design. Quand je parle à personne, je m'attends à ce qu'il soit meilleur que moi dans ce domaine-là. Puis, je leur dis, là, vous êtes engagé parce que soit j'avais pas le temps de le faire, soit vous étiez bien meilleur dans ces tâches-là. Donc, c'est vous les experts. Moi, je suis là pour vous aider. Je suis plutôt à votre service que le contraire. Donc c'est ça. Essayer de bâtir cette relation-là, que l'équipe vient en premier, puis après ça, de l'équipe vient la qualité. Puis si on livre la qualité, bien, le client va être heureux. Il va avoir envie de nous réembaucher, tout ça. Donc ça, c'est important. Puis,
De te rendre accessible, finalement.
Oui, c'est ça, exact. Puis peut-être un élément, tu sais, je touche aux clients. Tu sais, souvent, les clients peuvent avoir des demandes qui sont un peu incompatibles avec notre culture ou avec notre façon de faire. Fait que là, ça devient important de défendre l'équipe dans ces moments-là. Les gens s'en rappellent, hein, quand on accède à 100% des demandes du client, même celles qui sont farfelues et tout ça, sans avoir essayé au moins de faire changer les choses, les gens y voient. Donc, il faut...
Ils en veulent un peu, en
c'est ça, c'est ça, ils en veulent. Puis après ça, même, c'est peut-être avantageux sur le court terme, ça sauve d'une bataille, ouais, bon. Mais sur le long terme, en même temps, le client va continuer à avoir ces demandes-là déraisonnables, puis ça va juste pas s'arrêter. Il faut qu'on mette nos limites, qu'on apprenne à se respecter nous-mêmes, donc comme entreprise, et puis que les gens de l'externe respectent les gens qui sont ici. Donc c'est super, super important.
Tu as parlé de culture de l'organisation. Je sais que tu es quelqu'un avec des valeurs fortes aussi. Comment tu décrirais la culture de Illogica?
C'est vaste, hein? Je ne pourrais pas, probablement pas l'expliquer entièrement, mais c'est une culture de transparence avec les newsletters, etc., puis la demande aux gens de poser toutes les questions qui leur viennent en tête. Mm-hmm. Une culture d'authenticité, où est-ce qu'on est vrai, puis on se dit les vraies choses. Donc, on se faisait la remarque juste tout à l'heure, on a un jeu en développement, puis on va le faire tester aux gens d'équipe qui ne travaillent pas dessus. Puis on se disait, ouais, c'est vrai, je pense que l'équipe va être bonne pour donner son feedback, parce qu'en général, ils ne sont pas gênés de dire ce qu'ils pensent. Donc ça va dans les deux sens. C'est pas se sentir attaqué parce que quelqu'un a une critique constructive. Je ne dis pas qu'on est parfait, mais on est quand même pas mal là-dessus. C'est une culture de gens introvertis. C'est pas des. Des fois, c'est un peu étrange, des fois, pour des profils de gens qui sont un peu plus vendeurs, puis qui parlent beaucoup et tout ça. Ils vont remplir le silence complètement dans la salle, puis ils vont se mettre à parler tout seul. Donc, c'est vraiment plus des gens qui vont parler quand c'est leur tour, qui vont être très analytiques dans leur manière d'être. On est tous un peu différents, mais en règle générale, c'est un peu ça. Puis, c'est une culture aussi, je pense, qui est orientée envers le respect, tu sais, mutuel. Oui, il y a eu des cas dans le passé, ou des remarques déplacées, tout ça de membres d'équipe, mais tout le monde, à chaque fois que c'est arrivé, s'est trouvé fort désolé d'avoir dit quelque chose qui marchait pas. Ça nous arrive de nous mettre les pieds dans les plats. Puis en général, les gens apprennent vite, puis ça devient beaucoup plus smooth dans les relations d'équipe après. Donc c'est ça, je pense que c'est des gens qui essaient toujours de s'améliorer. C'est une culture d'apprentissage. Ça vient un peu aussi avec le marché. C'est difficile d'attirer des gens seniors. parce qu'ils sont sur des super projets avec des postes incroyables, avec des salaires extraordinaires. Donc, pour les attirer, c'est qu'il faut qu'ils aient un petit peu désenchanté de la grande entreprise. Donc, on a surtout tablé sur le fait d'améliorer nos gens, de prendre des gens qui n'avaient pas tant d'expérience, mais beaucoup de potentiel visible, puis de leur payer des formations, de les amener plus loin, etc., pour être fonctionnel. Donc, il y a un directeur de studio qui s'occupe principalement des tâches reliées à la production. Donc, il s'assure que ce qu'on livre, ce qu'on produit, répond aux critères demandés par le client ou ses clients à l'interne, que ça soit bien livré. Puis, on a des gens qui sont responsables en parallèle par métier. Donc, on a un directeur technique qui s'assure des compétences, des gens continuent à s'améliorer, qui s'assure de créer des pratiques de plus en plus évoluées pour valider la qualité générale des projets. Même chose au niveau artistique, on a un directeur artistique. On a certains postes qui manquent, comme directeur créatif, quelqu'un qu'on cherche à attirer, qui aurait ses responsabilités au niveau design, au niveau créatif général. Puis à côté, ben, on a des rôles d'administration qui gèrent l'aspect comptable, l'aspect ressources humaines de l'entreprise. Puis, c'est à peu près ça, mais on essaie de garder notre GNA assez petit par rapport au coût de production.
Donc, une hiérarchie assez aplatie, finalement, une structure plus
Ouais, c'est ça. Puis le message que j'envoie souvent, donc, tu sais, quand j'explique la hiérarchie de responsabilité à l'équipe, d'habitude, je fais un deuxième diagramme où je prends les mêmes petites boîtes là, avec les liens qui vont de haut vers le bas. Puis là, je dis, ben voici la hiérarchie de communication. Puis là, tout le monde peut parler à tout le monde. C'est sûr que on veut, par exemple, si quelqu'un va parler à programmeur qui est sur l'équipe d'un producer, on veut que le producer soit mis au courant qu'il y a un dialogue, surtout si c'est quelque chose qui est non trivial, qui va prendre du temps, ça va changer les livrables et tout ça. Donc là, il va y avoir une discussion qui va être faite, mais ce qu'on veut surtout pas qu'il arrive, c'est que l'information dont quelqu'un a besoin sur un projet doive passer par deux, trois étapes vers le haut, deux, trois étapes vers le bas. Mm-hmm. Pour être demandé, puis ensuite ça fasse le chemin inverse, donc ça prenne 3-4 jours à notre échelle pour avoir la réponse. Donc ça serait ridicule. Donc on facilite ça le plus possible.
Selon toi, qu'est-ce qui va générer le plus d'engagement chez les employés chez Logica? Qu'est-ce qui fait que les gens restent, mais qu'ils restent aussi mobilisés envers l'organisation?
Il y a des choses, tu sais, comme, tu sais, je commencer par le moins important, là, mais quand même qui a une importance, c'est d'avoir une vie sociale dans l'entreprise, qu'on fasse certaines sorties ensemble. On va au karting jeudi, donc on va avoir des événements qui vont intéresser la totalité ou une partie de l'équipe pour garder les relations actives. Il y a certains événements là, qu'on arrête de travailler carrément, comme une fête pour les fêtes de fin d'année ou on en fait une pendant l'été aussi, juste célébrer le beau temps qui passe pendant deux semaines. puis donc ça garde quand même un esprit cohésion. Les gens veulent travailler avec des amis, puis si c'est juste travail, c'est plus dur de devenir ami à travers ça. Mais ce qui les attire à rester à long terme, je pense, c'est qu'on a vraiment, on essaie vraiment de faire progresser l'entreprise et ses gens en même temps. On cherche toujours des meilleurs projets, on cherche toujours à améliorer notre apparence sur notre site web. On cherche toujours à développer des technologies qu'on ne connaissait pas avant, repousser les limites de certains concepts. Aller plus loin que ce qui se fait normalement. Puis, ben pour ça, il faut avoir plus de connaissances, être plus informé, etc. Puis, ça ajoute des éléments au CV, au profil des gens qui sont bons pour eux par la suite qui restent ici ou non. Fait que souvent, ils désirent rester parce qu'ils sentent une progression rapide, je pense.
Pour les développer.
Pour se développer eux-mêmes. Ils ont, au contraire, par exemple, quelqu'un irait travailler dans une grosse production, ben, souvent, il resterait sur le même projet, 1 an, 2 ans, 3 ans, dans un rôle similaire pendant tout ce temps-là. Donc, pour acquérir, mettons, un degré de connaissance très, très pointu sur un sujet en particulier. Mais est-ce que ce sujet-là va être d'actualité dans 5 ans? Peut-être pas. Ou est-ce que le prochain projet va avoir besoin de ça? Donc, leur valeur, la valeur de leur expérience va être dépendante d'un choix peut-être un petit peu aléatoire sur pourquoi eux vont faire telle spécialité plutôt qu'un autre, etc. Tandis qu'ici, ben, vu qu'il y a beaucoup de projets qui roulent en parallèle, ils vont être appelés fréquemment, règle générale, après juste quelques mois, à travailler dans un autre projet avec d'autres types de tâches, donc se développer là-dedans aussi. Donc, c'est plus des profils de gens qui aiment les défis variés. Puis qui aime un peu comprendre le développement d'un jeu d'expérience interactive d'une manière un petit peu plus holistique que des gens qui auraient un profil de spécialiste.
Okay.
On avait fait des tests de personnalité puis il y a quelques années, puis ce qui ressortait, c'était qu'il y a beaucoup de gens qui carburaient au défi, mais en même temps, c'est des gens qui aimaient la stabilité dans leur vie personnelle. Okay. Donc, l'expérience de travail et le GK fournissaient le défi tout en restant dans le même emploi, puis ça les stressait pas de devoir changer de job pour changer de projet ou changer de défi. Là. C'était quelque chose que naturellement l'entreprise se chargeait de faire pour eux.
Super. Vous avez 10 ans, hein, l'organisation
a maintenant 10 ans.
Donc en 10 ans, vous êtes passé de un employé, qui était toi, à une soixantaine d'employés à peu près.
Oui, bien, pour être exact, au début, on était 4 cofondateurs, puis personne ne se payait là-dedans. On payait pour travailler. Puis, puis après ça, les 3 autres, il y avait d'autres emplois ou d'autres opportunités à côté, donc ils n'ont pas continué de manière régulière. Donc, oui, effectivement, je me suis retrouvé à être le premier employé de l'entreprise, puis là, graduellement, on est allé jusqu'à 60 qu'on est aujourd'hui.
Bien, félicitations déjà en partant, c'est un
Merci.
Super bel accomplissement. De 1 à 60, c'est quand même beaucoup de changements. On sait qu'aujourd'hui, la principale constance dans le monde du travail, c'est le changement. Vous venez de vivre quand même encore un changement avec les agrandissements au niveau des locaux.
Locaux.
On sait que ça représente un changement important pour les employés. Comment tu dirais que tu gères le changement dans l'organisation? Comment c'est vécu, les changements dans l'organisation? On sait que c'est un enjeu pour la plupart des organisations de faire en sorte que c'est un succès chaque fois qu'on essaie de changer une pratique ou implanter des nouvelles choses dans l'organisation. Qu'est-ce que tu aurais à donner comme conseil par rapport à ça?
Bien, la clé, je pense que pour que le changement soit bien vécu par l'équipe, c'est d'être toujours en changement. C'est la révolution constante. Puis c'est des petits changements qui interviennent tout le temps. Donc, puis ça vient de besoins réels demandés par l'équipe. Puis ce qui marche le mieux, c'est quand c'est l'équipe elle-même qui propose des solutions puis qui implémente ces solutions-là. Là, ils sont vraiment engagés à le faire réussir. Parce que c'est leurs idées, c'est leur manière de faire qu'on dirige un petit peu là, pour s'assurer que ça remplit les mêmes buts que l'entreprise a, mais essentiellement, ça vient. Donc, ça vient, c'est souvent un irritant qui se crée. Mettons, on a un problème, exemple, de qualité dans certains livrables. Ah, OK, parce qu'on a grandi rapidement, on a certains programmeurs qui n'ont pas acquis toutes, par exemple, les bonnes pratiques au fil du temps. C'est normal, ils commencent, c'est des gens qui n'ont pas toute l'expérience encore de leurs collègues. Donc là, on dit, OK, là, ça nous prend un processus pour valider le travail de ceux qui n'ont pas encore toute l'aisance. Donc là, il va y avoir un besoin qui va être exprimé, une solution qui va être trouvée, puis on va mettre en place nouvelle procédure qui va améliorer les choses puis qui va fonctionner à notre échelle dorénavant. Si la solution précédente marchait bien, ton 15-20 personnes, naturellement, on se valide facilement, mais c'est plus aisé maintenant que quelqu'un se retrouve un peu dans un projet qui est moins visible du reste de l'équipe. Donc là, ça nous prend une procédure. Rarement, ça vient c'est pas Dieu qui parle à Moïse, là, c'est vraiment toute la gang là, qui regarde ça et dit « Ouais, moi, j'ai un problème, il faut adresser ça. » Puis souvent même, j'ai plus un rôle de tempérer, de dire « OK, là, vous avez trouvé 15 problèmes, parfait, réglons ceux qui sont plus accessibles en premier, les plus importants, les plus douloureux, puis ensuite on va regarder les autres. On peut pas tout changer d'un seul coup, là, sinon les gens ne s'y retrouvent plus, puis ça peut créer de la panique, de la désorientation. On veut que ce soit finalement assez graduel pour que tout le monde puisse utiliser la procédure comme il faut quand il y a une nouvelle, puis qu'on puisse passer à autre chose par la suite.
OK. Fait que les impliquer dans la définition des solutions facilite l'implantation. Après, on a moins de résistance, puis d'y aller étape par étape, finalement.
Oui, c'est ça. Donc, okay.
Tu l'as dit, hein, vous avez connu une évolution vraiment rapide au courant des dernières années. Qu'est-ce qui a été peut-être les principaux défis de croissance en termes de gestion des ressources humaines? Qu'est-ce qui a été... peut-être ce que tu as trouvé plus difficile dans cette aventure-là, mais qui touche en particulier peut-être la gestion des employés?
En fait, quand il y a un petit nombre de personnes dans l'équipe, ça touche un petit peu ce que je disais plus tôt, c'est relativement facile de les encadrer parce qu'il n'y a pas tant de monde que ça, puis on peut y aller de manière un petit peu ad hoc, là, puis ça va bien. Puis après, à un moment donné, tu arrives à 30, 40, 50 personnes, puis là, ça ne marche pas vraiment. Donc là, tout le monde se dit, se retourne, puis ça nous prend des gens d'expérience qui sont dans l'équipe et qui vont pouvoir encadrer davantage. Puis là, on essaie d'embaucher à ce niveau-là, mais c'est pas facile. Donc là, ça crée une espèce de barrière pour aller plus loin, parce que là, si ces gens-là ne sont pas là, la qualité commence à baisser, la satisfaction du client est moins bonne. Donc là, quand on a ces signaux-là, faire attention, c'est juste une réputation, pas jouer avec ça. Donc je dirais que ça, c'est la partie la plus difficile au niveau de l'embauche, là. Attirer ces gens-là. Puis souvent, ça prend un projet un peu plus visible. Puis en même temps, les clients qu'on a sur les projets qui sont les plus intéressants, les plus fun, bien, on peut pas faire de publicité pour dire qu'ils sont là, ces projets-là. Tout est confidentiel. Donc, on ne peut pas juste utiliser notre nom pour dire « Ouais, faites-nous confiance, ça va être super cool le projet. » On peut pas l'annoncer. Donc, ça rend ça compliqué. Puis, le fait d'être une compagnie de service qui opère avec beaucoup de clients à Montréal, ça fait qu'on ne va pas aller voler des employés chez des clients. T'sais. On ne va pas mordre la main qui nous nourrit. Ce ne serait pas très gentil. Là. Puis, probablement qu'on aurait des conséquences assez directes si on faisait ça fréquemment.
Effectivement.
Donc, on est un peu limité de ce côté-là. Certaines entreprises avec qui on ne fait pas affaire, donc là, on va se sentir un peu plus libre là, d'aller solliciter des gens chez eux, mais il faut faire des campagnes publicitaires dans les réseaux sociaux, puis que les gens viennent naturellement vers nous suite à ça ou à un dialogue qu'il y aurait eu avec des gens dans l'industrie qui disent « c'est cool ce qu'ils font chez Logica pour XY raison ». Donc c'est ça. Ça, c'est un peu une barrière naturelle, ou en tout cas, qui est un ralentisseur, disons, de croissance.
OK. Dans le jeu vidéo, c'est sûr que vous êtes quand même un certain nombre d'organisations à Montréal qui offrent ce genre de services-là. Il y a de la grande entreprise, il y a de la PME comme chez Illogica, de la plus petite, j'imagine, mm-hmm. aussi. Mm-hmm. Qu'est-ce qui va faire? Parce que tantôt, tu parlais de table de ping-pong, des différentes choses finalement qu'on retrouve de façon assez régulière et générale dans ces organisations-là comme avantages ou comme style de vie au travail qui deviennent un peu des incontournables dans le domaine soit du TI ou du jeu vidéo. Qu'est-ce qui vous différencie au-delà de ces éléments-là qu'on retrouve un peu partout chez Illogica versus les autres organisations? Qu'est-ce qui dirait qui fait que vous êtes différent de...
Bien, je pense pas qu'à ce niveau-là, on se distingue vraiment. On en a quelques éléments comme ça dans sur le plancher, mais justement, c'est des choses, si on met trop l'accent là-dessus, c'est un peu la partie qui n'est pas authentique. Donc, est-ce que je viens travailler chez Illogica parce que je peux aller au gym à moins cher, ou je peux jouer au ping-pong? C'est pas les vraies raisons pour lesquelles on irait travailler quelque part. Donc, donc c'est sciemment qu'on n'en a pas trop, là. On garde ça parce que bon, c'est vrai que les gens prennent une pause de temps en temps, il faut quelque chose à faire, mais sinon on veut pas se distinguer de ce côté-là autant que possible. On va regarder ce qui est la base industrie, puis on va se contenter de ça. Remarque que peut-être par rapport à des entreprises un petit peu plus petites, on a peut-être des meilleures assurances collectives, puis on en a depuis longtemps, donc même quand on était une quinzaine, les gens disaient « Ah oui, vous avez l'assurance dentaire. » Ben oui, ça, mais en général, ils ne s'attendaient pas à ce qu'une petite entreprise de cette taille-là ait ça, mais ça se dirige plus vers l'authenticité, parce que c'est quelque chose qui est un besoin réel d'une personne, mal aux dents, ça ne va pas bien, il faut s'en occuper, donc s'assurer que la base est couverte, puis après que les gens aient le temps d'aller justement profiter de leur vie. Tu sais, ils peuvent aller jouer au ping-pong, faire toutes sortes de belles activités, puis se ressourcer à l'extérieur du travail sans avoir à faire ça ici. Donc ça, on va peut-être aussi se distinguer d'une certaine tranche d'industrie qui, eux, fonctionnent plus par cycle de production, ou est-ce que vers la fin, il va y avoir beaucoup, beaucoup de temps supplémentaire parce que l'équipe a une capacité finie. On ne peut plus ajouter d'autres gens, puis il faut finir le projet. Donc là, ils vont avoir ce cycle-là où est-ce que ça devient très, très pénible. Je l'ai vécu dans le passé. Là, c'est pas super le fun, c'est assez brûlant. Mais souvent, comme nous, on est en support de l'équipe principale en termes de service. Puis même pour nos projets à nous, on essaie vraiment de ne pas avoir beaucoup de temps supplémentaire. C'est vraiment une solution là, de dernière minute. Donc, je pense que les gens apprécient beaucoup avoir le temps d'avoir une vie à l'extérieur du travail, puis pas être pris fréquemment dans ce genre de problème-là.
Au niveau de la conciliation travail-vie personnelle, puis vous allez vous distinguer plus au niveau de la culture, des valeurs finalement, que... des petits perks là, comme ça qu'on retrouve un peu partout finalement.
Absolument.
Puis qui sont pareils un peu partout finalement.
Oui, tout à fait.
Si tu pouvais revenir en arrière, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment?
Ouais, c'est ça. Revenir en arrière, ben, on est toujours le fruit de nos expériences. Hein. Ce serait pas évident de dire qu'est-ce que je ferais sans avoir fait certaines erreurs qui m'ont appris beaucoup. Juste pour se prêter à l'exercice, donc il y a certaines embauches, par exemple, qu'on a fait dans le temps, qui n'ont pas été positives pour l'entreprise. On ne savait pas exactement pour quels critères on voulait embaucher. On l'a beaucoup mieux défini avec le temps, puis on s'est même créé une espèce de petit... phrase qui dit « Ah, cette personne-là est Illogica compatible », donc pour nous, ça, sans avoir à mettre tant de mots, là, ça nous guide vers ce que la personne est. Mais donc, c'est ça, des personnes qui se plaignaient beaucoup, qui prenaient beaucoup de temps, qui étaient désagréables avec des collègues et tout ça, donc ça, ça a grugé à certaines périodes de beaucoup, beaucoup de montants, puis c'était vraiment une grosse distraction. J'aurais pu passer notre temps parce que c'est bien plus agréable. Donc ça, je m'arrêterais avant de faire certaines de ces vieilles embauches-là. Puis s'il y avait à revenir en arrière aussi, je pense qu'on a mangé de la misère un peu longtemps avant que ça commence à marcher. C'est sûr que réseau de contact puis une crédibilité, ça se bâtit avec le temps. Si j'avais recommencé le JK, ben avec ce que je sais maintenant puis les contacts que j'ai, ben, on passerait de 1 à 60 probablement en l'espace de 2-3 ans, pas pendant l'espace de 10 ans, on obtiendrait des contrats beaucoup, beaucoup plus intéressants plus rapidement. Mais c'est ça, en même temps, on est parti ça à 27 ans, donc on n'a pas toute l'expérience nécessaire au début.
C'est souvent en souffrant qu'on apprend.
Oui, exact.
Puis de quoi tu serais le plus fier en tant que gestionnaire, en tant que propriétaire d'une entreprise que tu as bâtie au début?
Bien, ça, j'y ai pensé à quelques reprises. Dans le fond, le moment, tu sais, je pense que c'est un moment qui encapsule cette fierté-là. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de sentir qu'il y a un groupe de personnes, tu sais, pour qui l'entreprise fait une différence. Donc, qui ont du plaisir au travail la plupart du temps, moi j'espère. Qui pourraient faire là, mille et une choses dans la vie, mais qui ont choisi de venir travailler chez Logica. Je trouve que c'est un privilège incroyable. Puis c'est un grand bonheur de sentir ça. Donc si je peux être au service de ça, puis de les faire participer le plus possible à l'entreprise, ça, c'est quelque chose qui me donne beaucoup de fierté. Donc il y a des gens qui sont juste rentrés comme simples employés, puis qui sont maintenant actionnaires. Donc on a vraiment voulu faire participer le plus possible les gens à ce qu'est l'entreprise, et puis adhérer au but parce que ça construit quelque chose pour eux aussi. Puis donc, tu sais, je pourrais venir au petit moment là, de fierté par rapport à tout ça. C'est quand, en fait, un de mes collègues, ils ont eu un enfant, donc avec lui et sa copine. Ils sont venus de France, ils sont venus travailler ici. Puis, tu sais, il fallait un environnement propice pour que cette personne-là naisse. Puis j'ai dit, wow, tu sais, c'est incroyable. On a fait une entreprise, ça a donné l'assurance à des gens d'avoir un enfant. Donc, quelqu'un qui est vraiment né en partie parce que l'entreprise existe. Je suis comme, wow, ça c'est comme incroyable. Il y a des vies qui sont là, qui seraient différentes ou qui ne seraient pas là sinon. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu l'esprit de famille qu'on a su bâtir avec le temps, ce dont je suis plus fier.
Puis vous préparez déjà la relève avec ces enfants-là, finalement?
Oui, il faut attendre quelques années, là, mais c'est ça,
exactement. Super. Bien, merci beaucoup, David, pour le temps que tu m'as accordé. C'était vraiment enrichissant. Merci énormément.
Bon. Merci à toi.
Si le sujet de la gestion des employés et de l'engagement vous intéresse, rendez-vous sur notre site web oviaconseil.ca dans la section « Ressources ». Vous y trouverez tous les épisodes de ce podcast ainsi que des outils gratuits à télécharger. Pour ceux qui préfèrent lire, je vous invite à télécharger mon e-book « Employés engagés, entreprises performantes » dans lequel j'aborde des sujets similaires à ce podcast. Finalement, je vous invite aussi à joindre le groupe Facebook « Employés engagés, organisations performantes » qui regroupe des dirigeants en petites et moyennes organisations, responsables de gestion d'employés et qui souhaitent s'entraider en discutant entre eux de ce sujet. Tous les liens se trouvent dans les notes de cet épisode. À la prochaine!